Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous retrouvons Jean-Luc Marion dans nos entretiens sur la laïcité. Je signale que nous avons déjà fait un entretien avec Émile Poulla sur cette même question de la laïcité. Et il m'a semblé effectivement pertinent de demander à Jean-Luc Marion, qui est philosophe, qui a une œuvre philosophique abondante, de bien vouloir répondre à nos questions sur la laïcité. Je signale à nos auditeurs que nous avons consacré un grand entretien, et peut-être que nous en aurons d'autres, avec vous, Jean-Luc Marion, sur votre œuvre et sur votre travail. Vous avez fondé une section française de la revue Communio il y a déjà 33 ans. Vous avez été conseiller, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, du cardinal Lustiger, auquel vous allez succéder à l'Académie française. Et donc, vous êtes considéré comme un intellectuel catholique et vous intervenez régulièrement dans ce champ-là.
Peu, j'espère.
Peu, mais peut-être... Je ne sais pas si c'est un regret ou si c'est un...
C'est un souhait.
Ah bon. Alors, vous avez quand même fait, au moment de la venue du pape, donc en septembre 2008, vous avez fait un article dans le Figaro et je voudrais qu'on puisse en parler. Donc, dans votre article, vous partiez d'un constat plutôt brutal, considérant que la philosophie ne disait rien sur le nihilisme. Vous dites « rarement la philosophie n'a pu en dire moins sur notre condition et que ce désert asséché de rationalité se nomme le nihilisme. » Et que, d'une certaine façon, la philosophie n'en parle pas, ou n'arrive pas à en parler, ou n'arrive pas à en sortir. Quelle est cette philosophie qui n'en parle pas et pourquoi est-ce qu'elle n'en parle pas ?
Bah, écoutez, ce que je voulais dire était une chose tout à fait simple. Nous sommes depuis cette période entrés dans une phase accrue de la crise économique, financière, etc. Et on voit très bien que l'ensemble de la société a du mal à nommer cette crise. On ne sait même pas de quoi il s'agit exactement. C'est une crise financière si on veut, mais c'est une crise financière qui portait sur de l'argent qui n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui est en crise ? Comme on dit, c'est la confiance. Mais qu'est-ce que c'est que la confiance ? C'est une crise industrielle, mais ce n'est pas parce que les besoins diminuent. C'est même peut-être pas parce que la solvabilité diminue, on n'en sait rien. Le fait qu'on ne puisse pas nommer la crise, et que même les idéologies les plus capables de parler pour ne rien dire, soient quand même très muettes. Le débat entre le libéralisme, les keynésiens, néo-keynésiens, plus personne ne parle. Personne ne dit « nous avons la solution ». C'est très impressionnant. De la même manière, il y a d'autres crises, comme par exemple le problème de la santé. C'est-à-dire en fait que nous avons tellement objectivé le processus vital que, un, nous ne savons plus exactement la différence entre la vie et la mort, et deux, c'est à nous d'en décider. Alors, on déguise ça sous la question de l'euthanasie, le droit à mourir dans la dignité, le droit à l'avortement, le contrôle de la naissance, la prévention, etc. Ce sont des noms, des mots, pour couvrir cette chose terrible que nous nous sommes appropriés, j'allais dire malgré nous, le droit, en fait, la terrible responsabilité de décider qui est vivant, qui est mort. Et ça envahit l'ensemble du système de santé. Bon, la même chose pour l'éducation. Nous sommes dans une situation où nous pensons que ce que nous devons faire, c'est de transmettre le plus vite possible, le plus tôt possible, un nombre d'informations en croissance exponentielle à nos enfants. Au même moment, nous ne savons pas du tout quelle est la relation d'autorité entre l'éducateur et l'éduqué. Bon, la contradiction, elle est absolument flagrante. C'est-à-dire, nous ne savons plus nous comporter vis-à-vis de l'étudiant, vis-à-vis de l'enfant, et au même moment, il faudrait qu'on le gave du contenu de tous les ordinateurs du monde. Bon, on n'y arrive pas. Bon, ça, c'est un problème. Ce sont des problèmes structurels qui ont des conséquences économiques. Bon, il y en a un troisième. Sommes-nous en état de guerre ou en état de paix ? Nous ne savons pas faire la distinction, nous ne savons plus faire la distinction entre un état de guerre et un état de paix. Est-ce que nous ne sommes pas en guerre avec les Chinois, après tout? Si, peut-être. Est-ce que nous ne sommes pas, d'ailleurs, dans les, on dit des guerres économiques, des guerres de renseignement, il y a des guerres de terrorisme, il y a des guerres de... Enfin, bon, la distinction entre la guerre et la paix est elle-même brouillée. Bon, alors ça, si ça n'est pas une situation de crise, et si le fait que tout devient équivalent de tout, ça n'est pas une crise majeure, si, c'est une crise majeure qui dure. Et le nihilisme, c'est en particulier quand on ne peut rien dire de rien et quand tout est équivalent à tout. Nous sommes dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est à nous d'évaluer. Et produire des valeurs, c'est justement ça, le nihilisme. Le nihilisme, ce n'est pas la perte des valeurs. C'est que toute chose est une valeur et que les valeurs sont décidées par ceux qui les évaluent. Qui les évaluent commercialement, financièrement, idéologiquement, comme on voudra. Mais c'est que ce que nous faisons. Tout le monde proclame ses valeurs, c'est le signe du nihilisme. Et ces valeurs n'ont aucune valeur de vérité. Bon, nous sommes dans une situation de nihilisme. Et c'est que ce qui rendait le voyage du pape intéressant, j'ai vu d'autres voyages du pape dans d'autres pays, aux États-Unis, je l'avais vu en fait 6 mois avant aux États-Unis, et j'avais, d'une certaine manière, annoncé ce qui allait se passer en France, parce que ça s'était passé aux États-Unis. Curieusement, quand le pape arrive dans un pays, c'est un des rares qui puisse dire quelque chose. Ou du moins, s'il dit quelque chose, les gens vont écouter un peu. Ils ne vont pas dire, comme Saint-Paul à l'Aéropage, on t'écoutera un autre jour. Non, là, c'est ce jour-là, ils écoutent. Ils ne comprennent pas toujours, ils ne sont pas d'accord, mais ils écoutent. Donc c'est un des rares. Et puis, lui, il ose parler. Aucun homme d'État ne parle de ces sujets. Il espère qu'on ne lui posera pas la question. Lui, au contraire, il espère qu'on lui pose la question parce qu'il veut dire quelque chose. Alors, c'est un changement considérable. Alors, d'une certaine manière... c'est l'inverse des situations disons, du 18e, 19e siècle. Quand le pape vient, c'est lui qui prétend détenir de la rationalité. Faire des arguments, comme disent nos amis philosophes analytiques. Alors que tout le monde autour est muet.
Vous voulez dire que c'est le seul qui sort du nihilisme, c'est ça?
Oui.
C'est le seul qui, d'une certaine façon, pose
absolument
des critères de jugement qui ne sont pas
oui,
des critères
et
de
et
jugement.
C'est pour ça. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce paradoxe, c'est que à la fois tout le monde dit un discours, c'est nos sociétés sont totalement déchristianisées, ça ne reflète plus rien, ça n'a pas d'autorité, etc. Il suffit qu'il y ait une phrase de travers au Vatican pour que tout le monde se sentent concernés directement, alors qu'au même moment, on dit que ça ne nous concerne pas. Bon. Alors, cette contradiction, à quoi elle tient? Évidemment, la mauvaise foi, les remords de conscience, beaucoup de choses. En fait, les gens restent quand même très directement christianisés. Mais ça veut dire aussi que tout le monde est d'accord que ce qui se dit là est décisif parce que c'est à des rares endroits où on peut encore dire quelque chose. Partout ailleurs, on ne dit rien. Parce que la société de communication... La société de communication, ça consiste au sens strict à en dire le moins possible. Alors, qu'on le dise haut et fort, et très souvent, n'empêche pas qu'on en dit le moins possible. Il faut passer à travers tout ça en en disant le moins possible pour que tout se passe bien.
Alors, dans ce même article, vous évoquiez, enfin, vous parliez de la question de la laïcité. Et vous disiez la distinction entre l'Église et l'État, qui est nécessaire, doit-elle vraiment conduire à une laïcité de combat et enfermer la foi religieuse dans la sphère privée? Et privée de quoi, pour l'interrogation? Ghetto, d'ailleurs, illusoire. Donc, quel regard portez-vous sur la laïcité? Est-elle aujourd'hui une laïcité de combat? Ou y a-t-il par ailleurs aussi de la laïcité de combat? Et est-ce que nous sommes dans des enfermements, dans un double enfermement?
Moi, je pense que, vous voulez, il y a une histoire de la laïcité. C'est une histoire relativement, enfin, que je simplifie. Hein. On peut dire d'une part que la distinction entre l'État et le pouvoir religieux est une caractéristique fondamentale de la révélation juive et chrétienne. Et que, aussi longtemps qu'il y a eu cette révélation, il y a toujours eu une distinction conflictuelle parce que le pouvoir religieux, le pouvoir civil... politique a toujours voulu contrôler le pouvoir religieux.
Enfin, distinction entre le prophète et le roi. Enfin, pour
oui, c'est ça. C'est ça. Cette distinction est fondamentale et il n'y a pas de christianisme sans ça. Donc, que cette tension continue entre le président de la République et l'Église de France ou le pape, c'est comme entre l'empereur romain germanique et le pape, entre Louis XIV et le pape. Bon, tout ça, c'est classique. Très bien. Et la distinction est fondamentale. Imaginons que nous revenions sur la séparation. Ce serait vécu comme une catastrophe par les catholiques. Enfin, on serait dans une situation terrible. On ne pourrait plus rien dire, plus rien faire. Bon. Deuxièmement, la laïcité à la française a une histoire tout à fait particulière, elle, qui est une laïcité qui est directement liée à un combat idéologique qui a une origine que tout le monde connaît et qui a été un combat contre l'Église catholique. Bon. Alors, il y a eu un compromis dans les compromis qui est la loi de 1905. Bon, elle ne fonctionne pas tout le temps. Elle ne fonctionne peut-être plus majoritairement comme une machine de guerre contre l'Église catholique. Enfin, elle a été largement construite dans cette intention. Donc, qu'il y ait une guerre contre l'Église catholique, après tout, pourquoi pas? Il y a des tas d'endroits où il y a eu des guerres contre l'Église catholique. Mais je veux dire, en Allemagne, en Italie, c'est ce Kulturkampf, il a des périodes où c'est un Kulturkampf, on le dit, puis il y a des moments où ce n'est pas le cas. Bon. En France, on ne l'a jamais dit. Quand c'était un Kulturkampf, on a dit que ça n'en était pas. Mensonge. Puis après, il y a des gens qui veulent encore que la laïcité soit une laïcité de combat, alors que dans les faits, ça n'est pas le cas. Mensonge encore. Bon. Alors, que l'on dise que la situation historique a changé et que la laïcité est une requête de l'Église catholique autant que de l'État, et que donc il n'y a pas de quoi en faire une bataille politique, et qu'on ne voit pas ce que ça veut dire que la foi est privée et que le public est neutre. Ce n'est pas vrai. L'espace public n'est pas neutre. C'est pour ça que les gens, on a un droit de démonstration. C'est un droit républicain. On a un droit de démonstration. Donc l'espace public n'est pas neutre. Donc ça n'a aucun sens de dire que la foi religieuse, les convictions religieuses sont neutres. Vous ne pouvez pas dire ça à un juif, ni à un musulman, ni à un chrétien, ni à personne. Vous ne pouvez pas le dire à la pensée rationaliste non plus. Donc dire la laïcité positive, ça consiste à dire que les religions, en particulier la religion catholique, ne sont pas un cancer ou un visage défiguré par la peste qu'il faut couvrir d'un masque et mettre dans des réserves en dehors des villes. Que ça fait partie de l'espace public, ce qui est un fait.
Vous allez même plus loin dans votre article à propos de la laïcité positive et vous dites on admettrait presque que l'avenir de la République passe
par sa capacité,
par l'intégration en elle de toutes les énergies religieuses, à commencer par celle des catholiques. Donc ça laisserait supposer, un, que effectivement cette intégration n'existe pas ou n'est pas.
Si, elle existe déjà. Elle existe déjà. Une partie du service public de l'éducation est évidemment faite par l'enseignement privé majoritairement catholique. Une partie du travail d'assistance sociale sous toutes ses formes est faite par des associations religieuses et l'État se sert déjà de ça. Simplement, il faudrait qu'ils l'admettent, qu'ils le disent. Et ça sert aussi du secours populaire, très bien. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Et il serait peut-être bien que les nouvelles religions prennent leur charge et fassent leur travail aussi de manière indistincte pour tout le monde, etc. Donc que l'islam investisse son énergie là-dedans, tout aussi bien, très bien. Je veux dire, c'est incroyable de dire que les religions peuvent. Alors, parce que c'est très curieux, on dit les religions, elles sont mortes. Et puis après, on déplore qu'elles soient mortes. Et puis en même temps, on dit le retour du religieux. De quoi parle-t-on? Ces deux discours se superposent, sont totalement contradictoires. Bon, ça veut bien dire que la grille d'analyse est absolument fausse. La vérité, c'est que les religions n'ont pas disparu. Elles ne disparaîtront pas. Comme ça. Et que leur énergie doit être, du point de vue des politiques, utilisée à bon escient. Qu'on appelle ça la laïcité positive ou non, est une chose secondaire. Mais en politique, c'est comme dans le reste, le mensonge, même institutionnalisé, n'est au bout du compte jamais payant.
Et vous voulez dire que l'État, au jour d'aujourd'hui, ou la société telle qu'elle existe aujourd'hui, devrait intégrer plus toutes ces énergies-là ?
Moi, je le pense. Je me place... Il y a une crise universitaire en ce moment, enfin, comme tous les ans. Bon. Vraisemblablement, l'autonomie des universités, qui est indispensable, ne peut pas être décrétée par le pouvoir central. C'est peut-être une contradiction dans les termes. Donc là, la situation actuelle, c'est que nous avons une autonomie qui est faite contre l'avis, du moins une partie, de ceux qui doivent devenir autonomes par rapport au pouvoir central. C'est absurde. Donc, l'autonomie, ça consiste à laisser les universités faire ce qu'elles veulent, pas à leur dire ce qu'elles veulent. Par exemple, c'est aux universités de décider si elles le veulent, peut-être que ce sera un échec d'augmenter les droits d'inscription. Vraiment, ouais. Ça, c'est des choses réelles. Mais c'est... Donc, comment peut-on réformer cela ? Peut-être en laissant des enseignements, des institutions religieuses, privées, continuer à se développer. Peut-être. Je n'ai pas d'opinion, mais je veux dire, s'il y a des grandes écoles, une partie d'entre elles, de l'enseignement privé à tous les niveaux, bon, c'est peut-être... Pourquoi est-ce que on ne veut pas... pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même crise à l'Institut catholique, par exemple ? Donc, ouais. il est possible que les religions aient, sur certains points, de l'avance sur le système étatique. Peut-être que ce serait de bonne politique de...
Mais je pense en particulier à Habermas, enfin, qui effectivement dans son dernier livre et puis dans un article qu'il a fait paraître enfin, en français dans le débat, appelait à une mobilisation plus forte, à une prise en compte sur les débats de société plutôt que sur les éléments institutionnels de cette énergie religieuse, enfin, ou de cette... Alors, comment est-ce que vous voyez sur les débats de société une intégration, pour reprendre votre terme, plus forte des religions ou des énergies, ou des énergies religieuses, pardon, dans le débat de société ou dans les débats de société.
Moi, je pense d'abord qu'il y a les exemples que je donnais dans le système d'éducation, dans le système hospitalier, dans le système de solidarité. Il faut que l'État, il le fait déjà par le biais des subventions, etc. Démultiplie et confie un certain nombre de ses prérogatives, enfin de ce qu'il a considéré comme ses prérogatives, à d'autres instances qu'à ses fonctionnaires et à son appareil direct. C'est la première chose. Deuxièmement, ce qui marche, les institutions, les entreprises qui permettent les réformes qu'on essaie de faire du point de vue de l'État, les institutions qui, les entreprises de réforme qui réussissent, qui ne sont pas menées par l'État, devraient être encouragées. C'est-à-dire ne pas interdire de faire ce qui fonctionne déjà. C'est quand même curieux parce que je veux dire qu'on ne veuille pas privatiser au sens de transformer en système de profit les universités. Ça, je le comprends très bien. Bon. Mais les universités, il y a des universités privées ou relativement privées ou relativement indépendantes, qui ne sont pas des entreprises capitalistiques, qui ne sont pas là pour faire de l'argent, qui d'ailleurs n'en font pas, en consomment. Mais il y a, en France et en Europe, sans aller très loin, une tradition de ce genre de choses. Très souvent, les universités ont une base religieuse. La plupart des universités américaines ont été fondées sur une base religieuse. Elles ne sont pas moins rationalistes que les nôtres. Sont pas moins critiques, sont pas moins indépendantes, elles sont plutôt plus, elles sont infiniment plus. Bon, alors pourquoi est-ce qu'en France, l'indépendance, il faut vraiment que ce soit fait par une loi et des décrets et... L'indépendance, l'autonomie, ça se fait vraisemblablement en laissant les gens faire. Là on a un cas absolument concret. Et donc, Et puis, le fait que sur des débats, disons, éthiques ou para-éthiques, une proposition soit vienne de catholiques ou de la hiérarchie catholique n'est pas suffisant pour la disqualifier. Je sais que d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, il y a quand même ce réflexe qu'on les consulte de manière polie, à condition que ça n'ait pas de suite. Bon, il faut quand même être sérieux. Donc, je pense qu'il y a en ce moment qu'il y a des problèmes à la société française, c'est que c'est toujours une inadéquation entre le discours qu'on se sent tenu de maintenir et une réalité qui n'y correspond plus du tout, ce que tout le monde sait. ça n'empêche pas chacun d'être dans son rôle. Et donc, c'est la Commedia dell'arte. Je suis censé défendre le statut des enseignants-chercheurs. Chacun est dans son rôle. Et le cas de la laïcité est tout à fait frappant.
Et alors, dernière question sur ce point-là. Vous disiez toujours dans cet article que la laïcité donc à la française commence à sortir de sa sacristie, comme les catholiques français commencent à surmonter leurs peurs. Alors comment est-ce que vous voyez ce dépassement des peurs enfin, chez les catholiques?
Je pense que les catholiques assument leur passé, parce qu'ils le connaissent mieux, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas vraiment à en avoir honte, au contraire. Et ils voient bien aussi ce qu'ils savent faire, plutôt mieux que les autres. Qu'ils sont une minorité, mais quand même la première minorité, en France, c'est d'assez loin, qu'ils peuvent peser sur les... qu'ils prennent les responsabilités, ils voient qui ils sont. Et ils ne se laissent plus interpeller par les fantasmes que les groupes de pression leur ont imposés pendant quand même très longtemps. Et puis il y a le fait que, par exemple, ils gagnent quand même les dividendes du fait qu'il n'y ait plus de parti politique chrétien. C'est que ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Maintenant, ils sont de ce côté-là libérés et neutres. Le fait d'être catholique n'implique aucun agenda politique particulier. C'est quand même une chose qui, dans l'histoire de France, c'est récent. Bon, il y a d'assez nombreuses raisons. Et puis parce que je pense aussi que les crises culturelles que le catholicisme a traversées sont des crises culturelles, pas politiques comme auparavant. Les crises culturelles étaient très profondes et que ceux qui sont restés catholiques ou qui le sont devenus sont beaucoup mieux formés qu'avant, à mon avis.
Donc ça veut dire qu'en ayant surmonté leur peur, ils sont susceptibles de pouvoir réinvestir le débat public ou réinvestir le débat...
Absolument, oui, absolument. Je peux pas dire que je le constate parce que j'ai pas d'instrument de mesure, mais enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai. Mmh. C'est que vraiment, les réactions aux dernières affaires à propos de la levée des communications sur quatre évêques intégristes, l'unanimité de la réaction des catholiques français, l'unanimité rapide, sans discussion, sans concertation, de presque tous les bords, a été très frappante. C'est une des manifestations spontanées d'unité du catholicisme français que je vois, moi, pour la première fois depuis que je suis dans ce cirque. C'est-à-dire que je ne l'avais jamais vu avant, puisque moi, j'ai commencé à prendre conscience de ces choses avec le Concile, où j'étais quand même très jeune. Bon, donc je suis né dans la division de plus en plus profonde des catholiques français entre eux. Bon, et là, c'est tout à fait frappant de voir que telle n'est plus la situation.
Il y a un espace nouveau, il y a une opportunité nouvelle.
Enfin, non, mais je pense que ce qui a été fait depuis en particulier 20 ans a été considérable. Et je trouve que oui, c'est conforme à l'histoire du catholicisme en France, c'est-à-dire des courbes qui montent et qui descendent de manière régulière et assez rapide. Mmh. Et en ce moment, il est bien clair que la courbe n'est pas descendante. Mmh. C'est mon analyse.
Eh bien, Jean-Luc Marion, merci beaucoup pour cet entretien sur la laïcité. Je signale donc à nos auditeurs que vous venez de faire paraître un livre sur Saint-Augustin, mais que surtout, ils peuvent vous retrouver votre œuvre et retrouver ce que vous en dites dans un entretien que vous nous avez déjà accordé pour Canal Académie. Et je signale aussi que donc le 17 décembre 2009, officiellement, à l'Académie française. Pour toutes ces raisons-là, Jean-Luc Marion, merci.
Merci beaucoup.